Et comme le fait remarquer Elsa Vidal, il y a une arrestation aujourd'hui d'un militaire russe déguisé en civil qui a été arrêté du côté de Kherson. On parlait des traîtres, Nicolas Tanzer. Une chose quand même, on a aussi tous ces témoignages qui nous arrivent de résistants ukrainiens qui montrent comment est-ce qu'ils ont aidé l'armée ukrainienne à Kherson pendant ces 8 derniers mois. On a un jeune homme de 19 ans qui raconte à l'AFP comment avec ses amis pendant l'occupation, il a noté toutes les allées et venues des soldats russes, où se trouvaient leurs équipements, le stockage de leurs munitions, là où ils dormaient, là où ils allaient boire des coups, et que toutes ces informations-là, elles étaient transmises ensuite à l'armée ukrainienne par des réseaux de résistants pour effectivement, mettre à mal toutes les opérations russes à l'intérieur de la ville.
Absolument, c'est-à-dire qu'il y a aussi une ingéniosité extraordinaire des Ukrainiens, c'est-à-dire que derrière, il y a une série d'applications qui ont été conçues spécifiquement pour ces renseignements, pour des renseignements sur les mines où il y a une application, alors qui porte la figure de patronne. Vous avez le chien, le petit chien symbole, le chien des mineurs, mais vous avez plein d'autres choses. En fait, cette attitude de tous ces Ukrainiens ou Ukrainiennes, d'ailleurs aussi dans ces zones occupées, ailleurs aussi, y compris dans les zones non libérées, c'est tout simplement un comportement de résistant. Je veux dire, là aussi, pardon de refaire une analogie avec ce que nous avons connu, je dirais, pendant la période de l'occupation entre 40 et 44. Vous aviez des résistants qui étaient parfois actifs, qui participaient à des mouvements de résistance armée, qui faisaient dérailler des trains, qui faisaient du sabotage, qui faisaient des attaques contre des troupes allemandes ou des officiers allemands, bien sûr. Mais vous aviez une série d'autres qui faisaient tout simplement du renseignement et qui disaient, voilà, il y a une troupe là, il y a une garnison là, il y a des... Et je pense que tout ceci, effectivement, les Ukrainiens le font. C'est ce qui fait également que vous avez là une nation au combat. Mmh. Et que les Russes qui s'occupent ces régions-là, ils sont dans un terrain, une terre qu'ils occupent, qu'ils ne contrôlent pas. Et ils ont des gens qui sont partout, y compris dans les parties les plus orientales du Donbass, qui leur sont profondément hostiles. C'est aussi pour ça que même l'idée qu'avait à un moment Poutine de dire on va contrôler ce pays, on va faire qu'on va voir les Russes qui vont contrôler le pays, ne tenait pas la route.
Amandine, une chose importante dans les témoignages qui reviennent des habitants de Kherson, ils expliquent qu'il y avait notamment un centre de torture dans la prison de Kherson. Et les témoignages qui arrivent d'Ukrainiens, d'habitants de Kherson torturés, sont ce soir absolument terribles.
Oui, tout à fait, parce que ce sont des détentions qui ont été brèves, mais qui ont été très violentes. Évidemment, les arrestations étaient sommaires. Donc, il y a par exemple un monsieur qui raconte qu'il va dans la maison de son fils, qui est un militaire ukrainien, et que la police, enfin les Russes, l'armée russe arrive à ce moment-là, et donc il est arrêté, il est menotté, il est emmené à cette prison, il ne sait pas bien pourquoi. Et là, ils vont le frapper, d'abord avec des matraques, puis lui faire subir un interrogatoire, et ils veulent savoir où est son fils. Bon, évidemment, il ne leur répond pas. Ensuite, il baisse son pantalon et puis il raconte qu'il lui met des électrodes sur les testicules, sur le téton, et qu'il subit des électrochocs et qu'évidemment, il s'évanouit à la fin. Il rentre chez lui au bout de 3 jours. Et il y a plusieurs témoignages comme celui-ci. Par exemple, un autre homme qui est un journaliste aussi. Alors, lui n'a pas été torturé de cette façon, mais il a été mis dans un conteneur, dit-il, avec 2 autres personnes. Idem, il a subi un interrogatoire. Il ne saura jamais très bien pourquoi, ni comment ça aurait pu finir. Et cette prison était en effet dans le centre de Kherson, et ça s'ajoute à toute une liste de comportements des Russes qui ont été extrêmement choquants. Les pillages dans les maisons, les vols, la destruction des infrastructures, et qui font que Zelensky parle aujourd'hui de crimes de guerre. Alors, il a redit ce chiffre de 400 crimes de guerre, mais il n'a toujours pas précisé si c'était dans la région de Kherson ou si c'était en dehors. Et comme il n'y avait pas d'ONG, comme il n'y avait pas de journalistes, et comme il n'y avait personne d'officiel pour pouvoir avoir du recul et en témoigner, il va falloir une enquête forcément un peu longue aujourd'hui.
Cet été, il y avait plusieurs milliers, d'après la Cour pénale internationale, qui est déjà sur place et qui enquête, puisqu'il y a beaucoup de juridictions. En fait, il y a des ONG, il y a des journalistes, il y a les autorités locales, il y a la Cour pénale internationale qui a recensé, à l'été dernier, il y avait quasiment 30 000 actes considérés comme des crimes de guerre déjà commis, effectivement, incluant Boutcha, Mariupol. Et c'est une des dimensions qui est spectaculaire de ce conflit, parce que ça se passe en ce moment et que les enquêteurs enquêtent en ce moment, parce que Sergio Mancel, il faut prendre le temps de déminer, mais il y a aussi des destructions de preuves qui sont possibles, ce qui explique aussi l'empressement des enquêteurs et le zèle que mettent certains, y compris les Français, qui ont envoyé des spécialistes pour pouvoir enquêter, notamment sur la génétique, et pour pouvoir relever des preuves. Et c'est une dimension très importante de cette guerre, et effectivement, qui pointe aussi qui rejoint la question de la négociation. C'est-à-dire que négocier avec Poutine, diantre, vu ce que la population ukrainienne subit et vu ce qu'elle voit que l'on découvre dans, là où est passée l'armée russe, ça pose à chaque fois cette question.
Oui, je reviens au témoignage que nous donnait Amandine à l'instant, un témoignage qui sont notamment relayés par le journal Le Monde. Ce soir, Sergueï Janov, on parlait du parallèle avec ce qui s'est passé, les résistants, les collabos, etc. chez nous, mais on revient à aussi de très vieilles pratiques de torture absolument dégueulasses utilisées là par l'armée russe. Et effectivement, comment dire, la détestation entre Ukrainiens et Russes après ça, elle est décuplée.
C'est énorme, parce que déjà, pour l'armée russe, ils ont l'habitude. Hein. On connaît déjà ce qu'ils ont fait en Tchétchénie, on sait ce qu'ils ont fait en Syrie, donc on sait ce que les Wagner ont fait en Afrique, donc on sait très très bien jusqu'où ils peuvent aller. Hein. Et donc, par rapport à ça, il n'y avait pas énormément de découvertes. Mais c'est vrai que de l'autre côté, les Ukrainiens ont pris un peu l'habitude. Vous vous souvenez déjà Lyman. Lyman, ils sont arrivés au deuxième jour. Ils ont déjà trouvé les endroits où les gens étaient enterrés. Ils ont commencé déjà l'enquête par rapport à ça. Donc, on s'est installé. Ça fait 8 mois et demi que l'Ukraine est dans la guerre chaude, parce que ça fait 8 ans qu'elle est dans la guerre en réalité. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec les gens qui habitaient Kharkiv. Il disait, mais en fait, Kharkiv, c'est une ville russophone. Mm-hmm. C'est une ville qui est à 30 km de la frontière du Nord. Donc, en fait, c'est une ville qui est très, très proche. De l'autre côté, il y a des familles, il y a des gens, enfin, il y a les voyages tout le temps, etc. La façon par laquelle les Russes sont arrivés, déjà actuellement à Kharkiv, 9 Ukrainiens parlant russe sur 10 refuse maintenant de parler russe, refuse d'écouter les chansons russes, refuse de lire russe. Donc en fait, ça crée déjà une distance, un fossé entre malheureusement la Russie et l'Ukraine. Et à mon avis, on aura des décennies, voire même plusieurs décennies pour remédier à ça.
Toute proportion gardée, puisque on revenait sur l'exemple d'Amandine, c'est la gêne, en fait, la gêne utilisée par l'armée française en Algérie, et qui effectivement, ces traumatismes-là, ces actes-là, qui sont des actes extrêmement barbares, il y a eu aussi la question de déportation d'enfants, de population, là où je vous rejoins, c'est que ces histoires-là, en fait, elles vont s'enquister dans le temps, et en fait, le fossé entre ces deux peuples, ce qu'on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui, les séquelles de cette guerre à long terme, et les effets dans la région entre deux peuples qui, parfois, s'estimaient comme des peuples frères. Et on a eu des scènes de Russes qui arrivaient en Ukraine et qui disaient... Et puis les Ukrainiens qui leur disaient « Mais tu vas pas nous tuer, voilà. » Est-ce que le peuple ukrainien sera suffisamment résilient pour faire une distinction entre Vladimir Poutine, l'armée russe, les horreurs commises par cette armée, et les Russes eux-mêmes? Je trouve que c'est un sujet aussi pour les années qui viennent.
Vous dites Elsa Vidal, on l'espère.
On l'espère, et puis je pense qu'il y aura un grand travail. Enfin, moi, je trouve que le président Zelensky a fait preuve de beaucoup, beaucoup de mesures à chaque fois dans ses propos. Je trouve qu'il n'entretient pas du tout la haine entre les deux populations. Et puis, puisqu'on refait des parallèles historiques, je pense qu'on a su en Europe... très peu de temps avant de très graves horreurs, après de très graves horreurs, après la Seconde Guerre mondiale, construire un dialogue franco-allemand. Donc moi, je ne serais pas aussi radicale, mais bien sûr que ça laisse des traces, et bien sûr que c'était un tabou, cette guerre. Mais encore une fois, j'espère que les peuples sauront peut-être construire un futur qui dépassera les impulsions haineuses de certains gouvernants.
Nicolas Tetzer.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. Là. Il y a une première chose, c'est... tout va dépendre aussi de la manière dont les futurs gouvernements russes et aussi les intellectuels russes vont réagir dans les années, voire même les décennies qui viennent. Oui. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, nous aurons un président russe qui sera l'équivalent de Richard von Weizsäcker. Vous avez le président allemand qui, le 8 mai 1985, donc 40 ans après le 8 mai 1945, a prononcé un discours absolument extraordinaire où il demandait, où il exprimait ce que le philosophe allemand d'ailleurs avait exprimé dans un livre en 1946, la question de la culpabilité allemande. Et le jour où des intellectuels russes, j'ai consacré un papier juste très récemment, mais où les intellectuels russes aussi, ce qu'ils n'ont pas assez fait, je crois, aujourd'hui, y compris les opposants, ils n'ont pas assez dit « pas en notre nom ». Ils n'ont pas assez dit combien eux-mêmes ils demandaient pardon. Et je pense que ce sera quand même ce moment-là où il y aura quand même ce sentiment de culpabilité au-delà de la culpabilité judiciaire, ce sentiment de culpabilité morale qui sera exprimé, où les mots de pardon viendront, que peut-être cette réconciliation pourra venir. Entre-temps, le vrai sujet, c'est que nous avons eu tellement de crimes, parce qu'il y a eu tous ces crimes de torture, il y a eu des simulacres d'exécution, et puis des vraies exécutions. Il y a eu des crimes de guerre, mais par leur systématicité, qui étaient aussi des crimes contre l'humanité. Il y a eu des crimes de génocide, comme la déportation d'enfants, légalement.
C'est considéré comme du génocide.
Et vous avez eu le crime d'agression, pour lequel beaucoup demandent de créer un tribunal spécial. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je crois que, encore une fois, si on a un régime comme celui de Poutine qui dure, avec quelqu'un d'autre, dans les 5, 10 ou 15 ou 20 années qui viennent, je pense que là, la réconciliation ne sera pas possible.
On parle de Poutine dans une seconde, Guillaume Ancel.
Oui, il y a quand même une caractéristique qui est essentielle dans la Russie de Poutine, et on le voit malheureusement plus que jamais à travers cette guerre, c'est une violence sans limite, une violence d'État. Et quand tous ces crimes ont été, dès le départ, dénoncés dans la guerre en Ukraine, je pense surtout après le retrait Kiev, il n'y a pas une seule voix dans l'État russe pour dire « on va enquêter, on va encadrer ». Mais qu'est-ce qui... Poutine n'a jamais même amorcé l'idée qu'on puisse enquêter sur les soldats russes.
Il a donné une décoration au régiment qui était présent à Boutcha.
Et de l'autre côté, Amandine a cité tout à l'heure les témoignages des premiers actes de torture qui sont répertoriés dans la région de Kherson. On a aussi parlé de Liszt. Les témoins disent, on a été dénoncé, le monsieur qui a été récupéré dans la maison de ses enfants, il dit, j'étais sur une liste. Et donc, ça va être terrible, parce que justement, il y aura cette chasse aux collaborateurs, parce que ce ne sont pas les soldats russes qui sont arrivés avec des listes. Ce sont des Ukrainiens qui leur ont fourni ces listes. Et donc, ça laissera des traces, parce qu'on participait à cette violence d'État russe, malheureusement aussi des Ukrainiens.
Et juste un petit mot, vous savez, la Russie est très, très loin encore de comprendre ce qui se passe réellement, parce que, vous savez, même actuellement, on voit les manifestations des femmes, mais elles demandent de quoi ? Elles disent quoi ? Nos maris sont envoyés dans la guerre qui est injuste ? Pas du tout. Mais pas du tout. Ils disent, on a envoyé nos maris pas bien équipés pour la guerre. Et donc, équipez-les mieux, donnez-leur à manger, mais ils sont absolument pas dans la compréhension déjà de la guerre, sans parler de dire le pardon, de demander pardon, etc. La Russie, à mon avis, elle est aux années-lumière encore de compréhension de ce qui se passe, même avec la Russie elle-même.
Et a fortiori avec ce qui se passe en ce moment du côté de Kherson, Elsa Vidal, comment est-ce que Poutine se relève de Kherson ?
Ça va être difficile parce que, alors, effectivement, même si militairement c'est un repli organisé et plutôt beaucoup mieux organisé que Liman qui avait été une débâcle totale, politiquement c'est quand même un revers. En revanche, pour le futur, il a perdu énormément de points en termes politiques et c'est vrai que sa survie politique va désormais dépendre des futurs résultats militaires. Mais pour le moment, ce qu'on voit et qui, en un sens, est peut-être nous offre moins de possibilités d'espoir d'une bataille décisive du côté ukrainien, c'est que le militaire reprend le pas sur le politique. Globalement, Sourovikine a convaincu Shoigu, et ça veut dire qu'avant, Poutine avait été convaincu. On a vu Prigojine et Kadyrov accepter ce choix. Donc ça veut dire qu'on a temporairement au moins rendu les manettes aux militaires. Poutine est absent, bien sûr que c'est un signe de faiblesse, mais c'est aussi une distanciation vis-à-vis du repli actuel.
Donc quoi, il réapparaîtra quand ça l'arrangera ?
Probablement, mais c'est certain qu'en termes de capital politique, il est maintenant sur la sellette. C'est sûr que désormais, il va falloir empocher des victoires militaires sous peine de perdre le contrôle.
Est-ce que c'est une défaite qui peut lui être fatale ? Vous dites que sa survie politique dépend de ce qui va se passer, évidemment, sur le terrain militaire. Guillaume Ancel, est-ce que c'est... Comment dire ? Vu l'ampleur de la défaite qu'il vient d'encaisser à Kherson, est-ce que c'est quelque chose qui peut lui être fatal ?
Ouais, moi, je ne l'aurais pas raconté tout à fait comme Elsa. Ce n'est pas un retour des militaires aux manettes. C'est Poutine qui leur abandonne les manettes. Parce que Poutine a tout voulu diriger d'un point de vue militaire depuis le début de l'opération. Or, il n'a aucune compétence militaire. Là où Zelensky n'a jamais tenté ça, parce qu'il sait qu'il n'est pas compétent en la matière et il l'a confié à des vrais militaires. Là, ce qui est terrible, c'est que à ce tournant de l'opération, qu'on habille comme un repli stratégique, mais c'est d'abord un échec critique, et c'est un échec politique considérable. Parce qu'en fait, le vrai objectif de cette guerre, c'est pas la Crimée, c'est Poutine. Il n'y a que par la disparition de Poutine que les Ukrainiens pourraient trouver la paix. Et le débat qu'on essaye d'instiller autour de ce qu'ils vont vouloir récupérer, la Crimée ou pas, n'a pas tellement d'importance. Parce que pour moi, la cible, l'objectif stratégique de cette guerre, c'est Poutine. Or, Poutine se sent vacillé. La première fois, enfin pardon, c'est pas son premier échec, mais c'est une succession d'échecs. On se souvient de l'opération militaire spéciale qui devait durer 3 jours, puis 3 semaines. On se souvient de Kiev, on se souvient du Donbass. Et là, il se retire de Kherson, alors qu'il l'avait fait annexer par une fiction, mais qui l'obligeait à défendre coûte que coûte cette région.
Il y a une chose que je comprends pas dans ce que vous dites. Au début de la guerre, on a bien compris que l'objectif de Poutine, c'était Zelensky. C'était de l'éliminer de l'équation. Pour vous, aujourd'hui, l'objectif de Zelensky, c'est d'éliminer Poutine de l'équation ?
Je n'ai pas dit l'objectif de Zelensky. J'ai dit l'objectif stratégique de cette guerre. Cette guerre se terminera quand Poutine aura disparu.
Mais donc c'est un objectif...
Il est proclamé.
Par qui ?
Par Zelensky déjà, par l'Ukraine. Parce que Zelensky a dit, et d'ailleurs ils ont écrit dans la loi...
Oui, je ne négocierai pas avec
Poutine. Ça veut dire qu'ils ont dit Poutine n'est plus légitime en tant que chef d'État en Russie.
Oui, mais de toute façon, ils veulent aller jusqu'à une victoire militaire, donc les Ukrainiens.
On n'en sait rien.
La difficulté, c'est que les Occidentaux, eux, ne veulent surtout pas qu'on puisse laisser écrire ou que là, les Russes puissent penser que l'objectif,
pense aux Occidentaux.
C'est de renverser Poutine, en l'occurrence.
Oui, mais... Et De Guine, il pense aux Occidentaux. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec De Guine.
Allez-y, j'ai un télégramme, oui.
Il a écrit dans son télégramme un post dans lequel quasiment il a dit, en fait, en gros,
on va rappeler juste qui est Douguin. On rappelle évidemment que sa fille a été assassinée.
C'est un petit gourou philosophico-idéologique qui prétend être un grand gourou de Poutine, avec lequel Poutine d'ailleurs n'a rien à voir. Ils ne se connaissent pas, ils ne se voient pas, etc. Mais Douguin prétend être un idéologue. Et justement, ce qu'il a dit dans ce poste, c'est que la Russie, c'est une monarchie. Le monarque, en Russie, on lui donne tous les droits, il peut faire ce qu'il veut, avec nous y compris. Mais on lui pardonne tout, puisqu'il nous sauve. En revanche, le monarque qui a failli à nous sauver, lui, ce qu'il attend, c'est le sort du roi des pluies dans le rameau d'or de Fraser. Et donc, bien évidemment, c'était habillé très très bien. Tout le monde s'est précipité sur Wikipédia pour savoir ce qui se passe chez cet excellent écrivain britannique. Et donc, c'est les gourous, les chamans en Égypte ancienne, dans lesquels il y avait un chaman qui appelait la pluie. Donc, si la pluie était là, toute la tribu était reconnaissante. Mais si la pluie n'arrivait pas, eh ben le roi était exécuté. Et donc, Douguin a appelé à faire exécuter Poutine. Ben voilà. Mais ça arrive déjà.
Mais il est revenu et il a fait un communiqué de presse en disant que non, on m'a pas bien compris. En Occident, dans l'Occident pervers, on ne m'a pas compris et je reste loyal. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans la galaxie poutinienne ou nationaliste russe, de temps en temps, il y a des moments comme ça où il se croit sincère, où Douguin se prend pour un idéologue sincère et il est déçu par son tsar. Bon, bah, c'est terrible pour Douguin, mais bon, il pèse. Ça, c'est un zozo. Hein.
Je pense qu'il y a effectivement, enfin, derrière cette question de la. Est-ce que l'objectif est la disparition de Poutine, enfin, disparition du pouvoir, hein, j'entends, pas la disparition physique. Mais c'est-à-dire que moi je dirais plutôt d'ailleurs son jugement par une cour pénale internationale qui là peut être un vrai objectif et des autres.
Mieux.
Voilà, ce qui est toujours mieux. Mais indépendamment de ça, je crois que l'objectif de l'Occident, c'est quand même si personne ne peut le dire, c'est-à-dire que ni le président Biden, ni le président Macron, ni personne ne peut le dire, c'est quand même bien la chute de ce régime. Oui. Je veux dire, parce qu'on sait très bien que tant que ce régime ne sera pas tombé d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas de paix possible. Alors, il pourrait y avoir un règlement provisoire pendant un an, 2 ans, en Ukraine, mais il n'y aura pas de paix non plus en Syrie. Je rappelle quand même qu'en Syrie, les troupes russes continuent de bombarder tous les jours, quasiment, les civils.
Nicolas, le régime de Bachar al-Assad, qui était aussi l'objectif des Occidentaux, est toujours en place.
Voilà, mais avec, justement, parce que là, on va pas revenir sur cette histoire, mais nous avons, pour avoir écrit sur la Syrie depuis le début de cette histoire, on a été complètement faibles et inconsistants.
Notamment les Américains.
Si nous avions été, notamment les Américains en 2013, si nous avions réagi par rapport notamment aux attaques chimiques de la Ghouta en 2013, hein, où Obama refusait de respecter.
Obama avait décidé une ligne rouge qu'il n'a pas respectée.
Voilà, et je pense qu'après, on ne veut pas faire de l'histoire contrefactuelle, mais peut-être que 2014 n'aurait pas eu lieu, Alep 2015, 2016 n'aurait pas eu lieu, etc.
Enfin, la Syrie n'est pas la Russie.
Donc je veux dire, le vrai sujet, c'est que tant qu'on a ce régime, il n'y aura pas de paix dans le monde, ni en Syrie, ni en Ukraine, ni au Bélarus, ni en Moldavie. Je pense à la région de la Transnistrie, ni d'ailleurs au Myanmar, ni dans un certain nombre de pays africains, qu'on aura toujours des pays, la Serbie ou d'autres dans les Balkans, la Hongrie, dans l'Union européenne, qui joueront contre nous. On aura toujours les menaces, les attaques contre les démocraties, que ce soit aux États-Unis ou dans les démocraties européennes. Donc c'est ça la réalité. Oui. Donc l'objectif de long terme.
C'est compliqué d'imposer. Enfin, les démocraties occidentales ont essayé aussi pendant des années. Et en vain, d'imposer le modèle de la démocratie dans des pays en leur disant c'est l'émancipation, c'est la liberté. En réalité, vous avez un régime qui manie à la fois le capitalisme, mais surtout pas la démocratie, c'est la Chine, et qui essaie de prendre ce qu'elle peut prendre de notre modèle occidental, mais pour installer encore plus son régime. C'est très compliqué d'imposer à la Russie.
Mais personne ne peut l'imposer, sauf qu'on a quand même des instruments, nous avons les sanctions, on ne va pas imposer la démocratie, on ne va pas envoyer des chars à Moscou, personne ne propose ça d'ailleurs, heureusement. Mais je veux dire, nous avons quand même des instruments, et nous avons nous-mêmes à définir, ce n'est pas nous qui faisons la guerre peut-être, mais nous avons quand même, puisqu'il y a une guerre que lance Poutine, nous avons nous-mêmes nos propres buts de guerre, que nous devons clairement définir.
Bon, et on verra les discussions qui sont en cours, notamment autour du G20, dans une seconde, parce que là-bas aussi, il y a des pressions qui sont mises un peu sur différents pays. Simplement, là, on est sur le long terme. Sur le court terme, quand Poutine va réapparaître, visiblement, il y a un doute, il va tenir sa grande conférence de presse annuelle. Les journalistes russes commencent à se demander s'il y aura effectivement une conférence de presse annuelle là.
C'est normal que cela bruisse, parce qu'effectivement, enfin, il s'est quand même passé un très grand tournant, et je pense qu'il est normal de se demander comment tout ça va pouvoir être présenté.
Mais voilà, à court terme, quel est le récit qu'il peut en faire, lui? Quelle histoire il peut raconter aux Russes?
Mais en fait, elle est déjà commencée, cette histoire, depuis au moins la semaine dernière, quand il disait que... Et depuis, en fait, le 20 octobre, quand il disait qu'ils évacuaient les populations civiles, qu'ils voulaient préserver les vies, qu'ils voulaient aussi préserver les virus. Et je reviens à votre remarque qui était que il y a eu des mouvements de contestation parmi les femmes et les mères de soldats russes ou de mobilisés russes qui demandaient plus de confort, en fait, plus de qualité de l'équipement. Donc,
ou de paiement.
Et également le paiement des soldes. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine s'est exprimé sur la question du paiement et du calendrier des paiements des soldes. Donc je pense que voilà, le début du récit, il est là. C'est la Russie est une puissance magnanime, est une puissance humanitaire. Elle a fait attention aux victimes civiles qu'elle a évacuées. Nous disons déportées. Mmh. Et parce que le droit international le conçoit ainsi. Et donc ce réemballage est déjà en cours. Maintenant, qu'est-ce qui va être présenté comme l'objectif suivant et le programme russe pour ce qui est de la région du Donbass et même la région de Kherson, parce qu'on a quand même la question de cette frontière, puisque Peskov dit la Russie est toujours présente à Kherson, donc c'est un territoire occupé. Mmh. Alors, c'est ça qu'on se pose comme question. Mais Vladimir Poutine va revenir dans le jeu, ou alors demain nous apprendrons qu'il a été destitué. Mais ça,
scoop ce soir, Nelson Vidal.
Elle est prévue quand, cette conférence de presse? Elle se tient traditionnellement à quelle époque?
Elle se tient très régulièrement, donc moi, j'ai pas regardé la date précise, mais pour moi, elle est d'ici la fin du mois de novembre.
Guillaume Ancel.
Ou décembre.
Je regarde la date qui était prévue.
Ouais. Poutine est clairement le cœur du problème de la guerre en Ukraine. Et surtout, on le voit inexorablement jour après jour. C'est un serial killer qui dispose d'armes nucléaires et qui menace la stabilité mondiale. Ce que les Chinois et les Indiens ont rappelé encore récemment. Et pour moi, le cœur du problème aujourd'hui, c'est Poutine. Donc même si on n'affichera pas sur un objectif, sur un tableau, que c'est Poutine qu'il faut descendre, n'empêche que Poutine constitue la clé de ce conflit et des conflits qu'il soutient et qu'il soutiendra. Donc tant que Poutine restera au pouvoir, la planète entière sera menacée. Et c'est pour ça que pour moi, c'est dans l'équation, c'est le seul moyen de la régler, c'est que Poutine soit éliminé.
Oui, mais comment vous faites ça?
Ce ne sera pas à nous de le faire, ce sont les Russes qui l'éliminent.
Ah oui, ça a commencé déjà.
C'est-à-dire que déjà, on a commencé, enfin, la communauté internationale a commencé à négocier. Il y a eu déjà Jack Sullivan qui est allé à Moscou, il a rencontré Patrouchev. On ne sait pas de quoi Patrouchev a parlé. Patrouchev est allé aussi en Iran, il est allé aussi en Chine. Actuellement, il y a le chef du SVR qui est en Turquie. En rencontre avec le chef de la CIA